Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter un lopin de terre? Vous savez, mieux vaut ne pas se précipiter quand on achète un lopin de terre. On peut vite verser l'argent et regretter plus tard. Vous pouvez être victime d'une vaste escroquerie, soit vous vous retrouvez dans des conflits interminables, soit vous construisez une maison sur un terrain ou dans un environnement inapproprié. Alors, pour ne pas être victime de ce genre de situation, que faire? On en parle avec notre invité. Michel Tchouala, il est architecte. Encore une fois, bonjour Michel.
Bonjour.
Alors dites-nous, avant d'acheter un terrain, quelles sont les précautions à prendre?
Bon, d'une manière assez brève, il faut acheter un terrain là où le gouvernement ou l'État lui-même a fait un lotissement. C'est beaucoup plus sûr que de s'engager, comme on a l'habitude de le faire, aller trouver les chefs coutumiers par-ci par-là et à un moment donné, c'est l'administration qui suit après. Il faut d'abord être en contact direct déjà avec l'administration de l'État. C'est cette administration-là qui vous dira où est-ce que vous pouvez acheter un terrain, comment est-ce que vous pouvez procéder, tout ça. Et nous avons quand même un ministère, le ministère des titres fonciers. Vous voyez un peu, c'est ce ministère-là qui peut facilement intervenir dans l'acquisition ou bien dans l'acquisition d'un terrain. Il peut vous indiquer où est-ce que vous pouvez acheter votre terrain.
Bon. Mais vous dites qu'il faut acheter un terrain là où l'État a loti, mais généralement, il n'y a pas de communiqué pour dire que voilà, l'État a loti à tel endroit. Ceux qui sont intéressés peuvent aller acheter.
Oui, effectivement, je n'aimerais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas concerné quand même par ça.
D'accord.
Mais il faut quand même que je vous dise que c'est la meilleure des procédures à faire et à suivre. Mmh. Il faut se renseigner auprès du ministère de tutelle et c'est à ce moment-là que vous aurez des idées sur ce que vous allez faire, tout ça. Mais du moins le côté architectural, du moins en tant que technicien, tout ça, on peut donner des conseils sur la manière dont on peut, comment est-ce qu'on peut acheter un terrain, comment est-ce qu'on peut disposer d'un terrain.
D'abord, d'accord, allez-y du côté architectural.
Oui, il est très important que quand vous voulez acheter un terrain, il faut d'abord visiter le site, vérifier les accès du site et voir quelle est la nature du sol. Quand je parle des accès, il faut quand même que le terrain soit accessible. Est-ce que le terrain est très éloigné des voies routières, autoroutières, ainsi de suite, tout ça. Et il faut voir aussi que votre terrain ne soit pas trop éloigné, par exemple, des endroits de commerce, des écoles, des hôpitaux, etc., etc. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous serez le premier à accéder à ce terrain-là. Il faut aussi prendre, voir aussi si ce terrain a été viabilisé ou pas. Sinon, vous serez le premier, par exemple, à faire venir l'eau et le courant.
Oui. C'est quoi la viabilisation?
La viabilisation, c'est
l'eau et le courant.
En fait, quand vous achetez un terrain, normalement, on doit faire les canalisations, les évacuations d'eau pluviale, etc., etc.
Bien sûr.
Généralement, c'est le gouvernement, c'est l'État qui est censé le faire. Il doit, quand il lotit un terrain, il doit faire les caniveaux, les routes, il doit faire voir comment est-ce que les eaux de ce site-là seront évacuées. Une fois que vous achetez, vous trouvez que non, on a déjà viabilisé le site. C'est-à-dire, on vous amène l'eau, on vous amène le courant par le gouvernement.
Mais généralement, c'est pas ce qui est fait, hein, sur les terrains. C'est une occupation anarchique. Les gens viennent, ils occupent les terrains et voilà, petit à petit, on pense à ça après.
Oui, ça dit qu'il y a une défaillance quelque part. Donc, il faut le reconnaître quand même. Il y a une défaillance. Normalement, on devrait être précédé par le gouvernement dans ce genre de situation-là.
D'accord.
Et puis, on suit. Voilà.
Voilà, on retient. Il faut aller visiter le terrain.
Oui, il faut visiter le terrain. C'est très important. Et il faut le visiter. Il faut visiter le terrain à différents moments. Pendant le jour, pendant la nuit, pendant la période de pluie. Voyez un peu. Donc, je disais pendant le jour, la nuit, pendant la période de pluie. Voyez un peu. Parce qu'à ce moment-là, vous verrez comment est-ce que le terrain est en train de se comporter pendant le jour. Qu'est-ce qui se passe pendant la journée? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Quand il pleut, est-ce que le terrain demeure toujours accessible ou pas? Après la pluie.
Si par exemple vous êtes pendant la saison sèche, on peut dire au propriétaire, attends que la saison de pluie revienne, comme ça je vais constater.
Oui, parce qu'il faut reconnaître quand même que pendant la saison sèche, tous les terrains semblent être beaux à voir.
Oui.
Oui, il pose pas de problème. Vous roulez normalement pour avoir accès à votre lopin de terre, ça ne pose aucun problème. Et pendant la saison sèche, il est difficile des fois de savoir si ce terrain-là retient de l'eau ou pas. vous comprenez un peu. Tandis que pendant la saison, au fait, quand je parle de la saison, qu'il faut visiter le terrain, il est très important aussi d'avoir une idée sur la nature du sol. Est-ce que le terrain, il est marécageux? Est-ce que le terrain, il est sablonneux? Donc tout ça, il y a des experts qui savent mener ce genre d'études pour vous dire si votre terrain est approprié ou pas. Sinon, vous risquez d'avoir un terrain où vous dites qu'avec mon budget, je vais y aller sans problème, mais vous n'avez pas fait le sondage du sol. Et vous ne savez pas à quel type de sol vous aurez affaire. Et ça, ça peut vous poser des problèmes plus tard.
Et par rapport à l'environnement, quels sont les aspects à considérer?
Bon, l'environnement comme tel, il est très important quand même que quand vous achetez un terrain, que vous puissiez avoir une idée claire sur vos voisins directs immédiats. Par exemple, si vous êtes à cause d'une fabrique de savon, si votre voisin immédiat va construire un immeuble, par exemple, de 10 étages, vous imaginez un peu que si vous êtes derrière lui et que vous avez acheté un terrain pour avoir une belle vue sur le fleuve, et que celui qui est devant vous, il construit le moment venu 10 étages, donc vous n'aurez plus une belle vue sur le fleuve. Vous comprenez un peu. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là avant de construire. Et pour ce faire, il faut aller au ministère d'Urbanisme et Habitat parce qu'ils ont toutes les informations à propos, pour que vous puissiez avoir des idées sur ce que vous allez faire plus tard. Sinon, vous allez vous retrouver être un nain parmi les grands.
C'est un peu ça. Voilà. Mais est-ce que c'est une question, est-ce qu'il ne revient pas à l'État de déterminer les types de maisons qui doivent être construites, des maisons à construire dans un quartier? Parce que vous parlez là d'une maison sur pied, et le voisin, il vous construit une maison.
Oui, effectivement, il y a des quartiers, c'est-à-dire que le gouvernement, l'État devra dire que dans ce quartier ou bien sur cette étendue de terre, voilà, vous ne pouvez que construire, par exemple, au maximum à 3 étages. De niveau, aller jusqu'à 3 étages, au maximum. Dans le cas contraire, il faut aller voir ailleurs. Je prends un exemple. Si vous regardez très bien sur notre boulevard ici, vous remarquerez que nous avons des immeubles à plusieurs étages, mais évacués par-ci, par-là. Donc il est très important, à mon humble avis, que le gouvernement puisse se pencher, par exemple, là-dessus, afin d'embellir notre boulevard. L'embellir comment? En faisant en sorte que les constructions de plusieurs niveaux soient situées directement sur le boulevard. Parce que quand vous regardez notre boulevard du 30 juin, vous verrez que vous avez un immeuble de plusieurs niveaux et le voisin direct n'a qu'un seul niveau. Il est toujours au rez-de-chaussée. Et là, ça pose déjà un problème de voisinage. Vous voyez, par exemple. Oui, ça pose un problème.
D'accord, on retient que avant d'acheter un terrain, d'abord il faut aller vérifier auprès du service de l'État, des affaires foncières, pour s'assurer que c'est pas un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre.
Voilà.
Et aller visiter le terrain, et faut-il aller seul ou bien se faire accompagner?
Il faut toujours se faire accompagner par des experts.
Oui.
Les gens qui ont l'habitude de ce genre de situation, de fréquenter, de se retrouver régulièrement dans ce genre de situation. Comme je l'ai dit, il faut visiter le terrain à plusieurs reprises. Il faut y aller le matin, il faut y aller... Bref, il faut le faire à plusieurs reprises. L'ensoleillement, l'orientation, pendant la période de pluie. Il faut toujours aller à ce moment-là.
Avec un architecte, c'est mieux de le faire.
Oui, avec un architecte, pas forcément avec un architecte, mais avec un technicien du bâtiment, quelqu'un qui est dans le bâtiment.
Oui.
Et pourquoi pas, dans d'autres cas, se faire accompagner d'un géologue aussi. Oui, vous risquez d'acheter un terrain qui plus tard on vous dit que bon voilà, on a découvert un gisement de ceci, cela, et puis le moment venu, on vous demande de casser votre baraque. Voilà.
Ouais. Voilà, donc un géologue qui peut tester.
Il faut savoir vous êtes sur quel site. Mais n'empêche que l'État sait très bien quels sont ces sites-là, qui ne sont pas problématiques. Je prends un exemple. Quand vous achetez à Kingaboa, moi je peux tout de suite vous dire que Kingaboa, pour moi, c'est pas...
C'est un terrain marécageux.
Oui, c'est pas n'importe qui est censé construire à Kingaboa. Il faut... Ceux qui peuvent aller construire à Kingaboa, ce sont ceux-là qui ont des moyens. Vous voyez un peu.
Parce qu'il y a beaucoup de travaux à effectuer.
Oui, il y a pas mal de travaux à effectuer. Quand il pleut, généralement, à Kingaboa, quand il pleut, ces gens sont toujours inondés.
Oui.
Bien, moi, j'ai vu, on a fait des travaux quelque part. On a essayé un peu de modifier quelque part vers Kingaboa. On a modifié la nature, vous comprenez un peu. Qu'est-ce qui arrive maintenant qu'on a fait cela? Peut-être que ceux qui n'étaient pas inondés auparavant, en ce moment, ils peuvent déjà être sûrs qu'ils sont déjà inondés. quand le fleuve monte, ils sont sujets à des inondations.
Voilà.
Donc il faut respecter aussi la nature, c'est très important. Mmh. Et quand vous achetez un terrain à forte pente, vous commencez à creuser, faire des excavations assez importantes, c'est pas logique ça. Il faut vraiment vous adapter au terrain, sinon...
Sinon ça demande beaucoup de moyens, vous essayez même de ne pas finir les travaux qui sont prévus là. Eh bien, quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter un lopin de terre? Au Capi Service reçoit aujourd'hui Monsieur Michel Tiwala, architecte. Doudou Kadima nous appelle déjà des Mboujimaï. Vous voulez également participer, appelez au 081 890 63 94.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter un lopin de terre? Doudou Kadima, vous êtes à Mboujimaï. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et bon retour sur les antennes des radios Capi.
Merci Doudou, quelle est votre question?
Bonjour aussi à l'invité. Ma question est celle de savoir.
Oui.
Avant d'acheter un terrain, donc si vous constatez que là où on vous a vendu un terrain, il n'y avait pas un ravin, mais là, quand vous construisez sur ces terrains, après quelques mois ou quelques années, il y aura un ravin qui va ravager votre parcelle. Est-ce que vous pouvez aller demander à celui qui vous avez vendu la parcelle, ou bien vous pouvez...
Oui. Il n'est plus en ligne. Voilà, il parlait d'un ravin. Vous achetez un terrain, il n'y avait pas de ravin avant et après, un ravin s'est formé. Et vous allez répondre tout à l'heure, Michel, il est temps d'accueillir Ogi Bendelo qui nous appelle des Kananga. Bonjour, Ogi.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs et bonne journée. J'ai une seule question à poser à notre invité.
Oui.
Nous avons constaté à Kikwit, lorsque vous passez les ponts Kulu, les gens avaient... Bon, il y a vraiment une période très longue là passée. Les gens avaient acheté un terrain, construit... Et maintenant, récemment, l'année passée, on a détruit toutes les maisons. Donc, ce sont d'ailleurs des véhicules, des tracteurs qui venaient détruire toutes les maisons avec empressement que c'était un terrain des Oblats. Et pourtant, lorsque les gens achetaient, on avait informé à personne que ce terrain-là était déjà occupé. Alors, ma question est une grande inquiétude que cette population-là a, et de savoir comment est-ce qu'ils peuvent récupérer leur argent. Est-ce qu'on peut leur donner un terrain quelque part ou pas, parce qu'on n'a rien d'autre à quelqu'un. Ils ne savent pas à qui porter aussi plainte. C'était la matière qui était une inquiétude jeudi. Merci. C'était le programme sur les antennes de la radio Capi.
Eh bien, merci Ogi Bendelo. Michel Tiwala, vous avez suivi les deux auditeurs. Le premier parle d'un monsieur qui va acheter tout bonnement un terrain. Et quelques temps après, il y a un ravin qui apparaît et sa maison est emportée par l'érosion. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Doit-il aller voir le vendeur pour lui dire « Tu m'as vendu un mauvais terrain et je veux mon argent ?»
Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi je disais que quand vous voulez acheter un terrain, il faut visiter les lieux. Quand je parle de visiter les lieux, il faut visiter... Donc la contrée, il faut visiter le quartier. Il ne faut pas aller directement visiter ton terrain. Non, il faut visiter le quartier.
Tout le quartier.
Oui, afin de découvrir s'il y a des têtes d'érosion par-ci, par-là, et ainsi de suite, tout ça. Parce qu'il se peut peut-être que quand il pleut un peu plus loin, par exemple, si vous êtes plus bas, vous êtes sur une pente, il faut quand même reconnaître que ceux qui sont en hauteur sont quand même privilégiés par vous. Parce que, disons par rapport à vous, parce que quand il pleut, l'eau va ruisseler jusque vers chez vous. Donc, il faut avoir une idée claire de la manière dont se comporte l'eau sur le terrain. L'eau prend quelle direction? C'est pourquoi... Je reviens encore pour dire ceci. Il est très important de visiter la contrée, de visiter le quartier, et non pas aller directement vers le terrain et dire, bon, je l'ai vu, il fait 40 sur 40, il y a un arbuste par-ci, par-là. Et... Non.
Ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. C'est pourquoi j'insiste, il faut visiter le terrain pour ne pas avoir accès à ce genre de désagréments.
D'accord. Ogi de Kananga, il parle des gens qui avaient acheté des terrains au-delà du pont Kouilou, et juste après, quelques temps plus tard, on vient casser, on a rasé ces maisons en disant que c'est un terrain qui appartient aux un terrain des Oblats, comme il a dit. À ce moment-là, qu'est-ce que ces gens peuvent faire?
Normalement, je pense que très souvent, bon, écoutez, je ne suis pas assez j'ai pas compétence à répondre à cette question-là, mais je peux quand même l'aider. Quand vous voulez acheter un terrain, je reviens encore pour dire, prenez contact avec vos voisins immédiats. Ils ont quand même l'historique. Mmh. Ils peuvent vous dire, avant que vous ne veniez ici, on a vu les oblats, ils étaient là avant vous. Quelles sont les conditions à remplir pour acquérir ce lopin de terre? Mmh. Vous comprenez? Et quand vous allez au ministère de tutelle, ils peuvent vous montrer, ils ont des cartes topographiques, des cartes cadastrales, si vous permettez. Et on sait très bien voir quelles sont les dimensions du terrain. Le terrain des oblats, il commence où et il s'arrête où. Sinon, vous risquez de...
On va aller voir le conservateur.
Oui, il faut le faire. Il faut le faire. C'est très important.
C'est très important.
Il ne faut pas négocier avec le voisin qui vous dit, bon, voilà, ça commence ici, ça se termine là-bas, et puis du jour au lendemain, on vient vous dire que non, vous êtes chez autrui.
Et là, vous êtes perdant.
Oui, vous êtes perdant. Vous savez, il y a un adage qui dit, celui qui construit chez autrui...
Construit pour autrui.
Oui, voilà.
Chimanga nous appelle depuis Siro. Bonjour.
Ah oui, bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute, Chimanga.
Oui. Bon, voilà, moi, j'ai une préoccupation.
Oui.
C'est que les services de l'État aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour le besoin de l'argent ou comment... On vend un peu de l'hôtel de terre presque partout. Il y a un cas comme ça qui s'était passé au niveau de Kolezi au Katanga là-bas, où on avait vendu à un monsieur là qui travaillait à la Jekamine, on lui avait vendu un hôtel de terre quelque part là, il s'était construit sa maison. Bon, après avoir construit, puis c'est 2 ans après, toute la maison était engloutie, donc il y avait même de l'eau qui était passée au-dessus. Avec tout le bien là-dedans, donc il avait perdu, sauf qu'il n'y avait pas mort d'homme, mais il avait perdu et la maison et le bien, tout ce qui se trouvait là-dedans.
Oui.
Faute maintenant, parce que, où est-ce qu'on peut l'accorder? Parce que c'est les services de l'État qui ont vendu.
Oui. Alors, tu m'as
dit. Forme cette partie-là, donc à ce monsieur-là. D'ailleurs, on se disputait même cette parcelle-là, c'est ce monsieur-là qui avait un peu de moyens qui se l'était octroyé.
Oui, Chimanga, est-ce qu'avant d'acheter les terrains, il a eu les précautions d'aller vérifier auprès des services de l'État et aux autres services si c'était un terrain viable?
Non, bon, de toute façon, les terrains, on avait vu des gens construire, donc les gens construisaient dans cette partie. Lui aussi, il avait demandé, le cimetière, on lui avait donné.
D'accord,
endroit-là.
Voilà. Merci, sans pour autant
prendre. Il a construit sa maison.
D'accord. Donc, il n'a pas pris les précautions dont on est en train de parler aujourd'hui. Aller vérifier au préalable avant d'acheter ce terrain-là. Merci d'avoir appelé Emmanuel. Vous êtes à Mahagui. Bonjour. Emmanuel de Mahagui. Bonjour.
Non. À Mahagui, c'est pas bien.
C'est Fabien. Fabien, oui, vous êtes à Mag. Il y a également Emmanuel, peut-être qu'il n'est plus en ligne. Alors, on vous écoute, Fabien. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah oui, bonjour. J'ai une question à poser à notre invité. C'est que le constat fait à Mag, c'est que la plupart des terrains sont accidentés. Moins des terrains sont sur des surfaces planes. Alors, que l'invité nous dise quels sont les enjeux lorsqu'on construit sur... à ce genre de terrain, les terrains accidentés, donc.
D'accord. Michel, tu vois là.
Oui, pour répondre directement, je dirais que les enjeux, c'est que vous avez un budget assez important à prévoir pour à réaliser ce genre de construction. Mais il n'est pas dit qu'un terrain accidenté n'est pas constructible. On peut construire sur un terrain accidenté où il y a des fortes pentes. Sauf qu'il y a des précautions à prendre. Il y a le côté, il y a beaucoup d'ingéniosité. Comment dirais-je? Il faut beaucoup de tact, beaucoup de maîtrise, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'expérience pour faire ce genre de construction. Ça va demander beaucoup de calculs, de structures, de tout ça. Il faut stabiliser le sol à certains endroits pour arriver à faire ce genre de construction-là. Bon, de toutes les façons, vous savez, déjà quand vous avez une pente de 1 à 5%, elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais quand vous parlez de terrain accidenté, je vois déjà ce que nous avons ici à Kinshasa, dans certains coins de la ville. Mmh. Vous avez des terrains qui vous font 30% de pente, et c'est pas vraiment, vraiment indiqué à acheter ou bien aller construire sur ce genre de terrain pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. C'est un conseil que je vous donnerai, enfin que je vous donne d'ailleurs.
Tout est fonction des moyens.
Oui, c'est très important. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas construire sur un terrain.
Un terrain accidenté.
Oui, on peut, mais moyennant certaines dispositions techniques, il faut prévoir, il faut Il faut, il y a des moyens, il y a des moyens quand même. Il y a une certaine technique, comme je le dis, à utiliser pour construire sur ce genre de terrain.
Quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter un lopin de terre? Michel Tiwala, architecte et l'invité d'Okapi Service. Le sujet vous intéresse? Appelez au 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter un lopin de terre? Michel Tiwala, nous avons une question. Est-ce que le service des affaires foncières, avant de donner les documents, doit exiger auprès de l'acheteur, par exemple, les documents sur les études du sol? Parce que vous avez parlé, dit tout à l'heure qu'on peut faire des études du sol au préalable. Est-ce que l'État exige cela?
Non, écoutez, normalement, quand ils font le lotissement, je ne pense pas qu'ils vont y procéder de cette façon-là. L'État sait déjà, quand il obtient une surface de terre, ils savent déjà à quelle nature de sol ils ont à faire. C'est plutôt la personne, moi, vous par exemple, vous allez construire sur un terrain. Vous voulez construire un immeuble à 10 étages, même si vous êtes tombé sur un bon sol. Il faut qu'on fasse des sondages, il faut qu'on fasse l'étude du sol. Généralement, on ne fait pas ça. L'État ne vous fait pas ça. L'État,
et qui est censé faire l'étude du sol?
Mais il y a des bureaux, c'est-à-dire il y a des bureaux d'études qui sont, par exemple, il y a l'Office de route. Hein, je peux déjà citer comme ça. Ils ont quand même des laboratoires habilités à faire ce genre d'études.
Voilà. Bien, Malonga, vous êtes à Banonouville. Bonjour.
Oui, bonjour, je dis Daniel Kachama et bonjour à notre invité.
On vous écoute, Malonga.
Ok, merci. J'ai des préoccupations. Je vais commencer d'abord par le lotissement. Une ville qui a été lotie, mais parmi cette surface, il y a un endroit vraiment qui n'est pas propice pour la construction. Or, ça doit être construit. Alors, si on construit, par exemple, à Bukavu, j'étais là à Bukavu, dans la commune de Kadutu, vous voyez, chaque fois, à cette période de pluie, il y a vraiment les érosions, il y a des maisons qui coulent, et ça laisse vraiment aucun trace. Alors ça, qui va subir ça? C'est la faute de la population ou bien c'est la faute de l'officement? Deuxième préoccupation, si, par exemple, dans cette période de la reconstruction de notre pays, il y a ceux des Congolais qui se trouvaient ailleurs là-bas, les diasporas, qui s'intéressent maintenant à acheter des lopins ici chez eux.
Oui.
Alors, ils recommandent à quelqu'un, mais à travers le service de tutelle, ils donnent les précautions. Avant de m'acheter une parcelle, il faut passer d'abord par le service compétent. Il arrive là-bas, le service se parfaire à ce mandataire. Lorsque le propriétaire, l'acheteur qui était de loin, il arrive,
oui.
Il trouve que non, en tout cas, ce millier n'est pas vraiment probable pour moi.
Oui.
Je vis là, je vois comment est-ce qu'on achète des parcelles.
Oui.
Qui va subir cette peine? Est-ce que c'est le mandataire ou bien le livreur des documents?
D'accord, qui va subir la peine. D'accord, merci Malonga. Emmanuel, vous êtes à Mahagi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Emmanuel.
Bonjour, Gladys.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Je voulais demander si la loi congolaise a une réglementation pour l'achat des parcelles. Et aussi, j'aimerais aussi savoir si les services que l'État cité là, est-ce que tous ces services, il y a les géologues, les architectes, est-ce qu'on les trouve toujours au service des cadastres? Parce qu'ici, à moi, je vois que si une personne achète des parcelles, le seul service qui part vers cela, c'est seulement les cadastres. Je veux savoir ça.
D'accord. Charlotte nous appelle de Kisangani, à Buyoma, Singamwambi. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Charlotte.
Allô, papa.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Bonjour, papa. Je voulais intervenir à l'émission, papa. J'ai acheté un parcelle depuis les parcelles, les propriétaires avaient acheté ça à 1991.
Oui.
Maintenant, moi, je l'ai acheté à 2011.
Mm-hmm.
Mais mon voisin n'a pas de papiers, de construction, contrat de bail. Moi, j'en ai tous les documents.
Mm-hmm.
Mais mon voisin n'a rien comme document. Lui avait acheté les parcelles chez chef de quartier.
Mm-hmm.
Mais on a mis des bornes. Maintenant, moi, j'ai vu les contentieux venir voir. Mais j'ai vu les conservateurs. On me fait que zigzag. Et moi, j'ai tous les documents. Et j'ai acheté la parcelle à cher. Mais les voisins n'ont rien comme document. Qu'est-ce que je peux faire, papa?
Oui, maintenant, je n'ai pas bien compris, Madame Charlotte. Quel est le problème?
Le problème est que mon voisin a pris la moitié de ma parcelle, 5,60 m.
OK.
Et pourtant, il n'a pas de documents. Moi, j'ai tous les documents. Mon parcelle est acheté à de bonnes voies. Mais mon voisin, quand on veut retrancher les 5,60 m qu'il a pris dans mon parcelle, parce que moi, j'ai acheté les parcelles, je ne savais pas, j'étais ignorante. Mais je me suis allée au titre foncier pour annoncer que j'ai acheté les parcelles, qu'on change les noms de mon mari à celui qu'on avait acheté. Maintenant, le titre foncier m'a dit non, qu'on parle de vérifier. Et remesurer. Quand on a remesuré, les titres fonciers m'ont dit que les voisins ici ont pris votre 5,60 m.
D'accord.
Il faut qu'il les restitue ça. Hein. Mmh. Maintenant, mon voisin dit non, moi je ne peux pas restituer. Mais et pourtant, il n'a rien comme document. Moi,
d'accord,
j'ai tous les documents,
d'accord,
urbanisme, titre foncier, j'ai acheté dans une bonne voie.
D'accord, on a tout compris. On a tout compris, Madame Charlotte. Merci d'avoir appelé de Kisangani. Michel Tiwala, revenons à Malonga de Bandundu, qui parle d'un endroit, les gens construisent à un endroit non approprié. Par exemple, il était à Bukavu, il parle de Kadutu, il y a Labou, tout ça, et c'est pas très très bien habitable. Alors, il dit à qui la faute à ce moment-là?
Vous savez, il y a ce qu'on appelle une occupation anarchique, des fois, des terres. Le premier, il vient, il s'installe. Le deuxième, il suit. Finalement, il prend l'habitude.
Sans respect des normes, oui, sans vérification
sans
aucune.
Sans respect des normes. Et c'est l'État qui suit après pour régulariser la situation.
Oui.
C'est-à-dire, ils mettent le gouvernement, ils mettent l'État devant un fait accompli. Et là, ça pose déjà un problème.
Mmh.
De deux, soit on a fait un lotissement. On a fait un lotissement et ceux qui viennent occuper, ils construisent. Parce que la construction anarchique, c'est pas seulement l'occupation anarchique de l'espace. Vous pouvez être chez vous, dans votre parcelle, mais vous construisez d'une manière anarchique, c'est-à-dire sans respect de normes. Vous ne respectez rien et vous allez jusqu'à gêner même les voisins. Quand les eaux pluviales tombent de chez vous, vous ne savez pas les canaliser, vous ne savez même pas les traiter déjà chez vous déjà.
Mmh.
Directement, ça part sur la route, sur l'avenue. Mmh. Et ça peut indisposer les voisins, vous comprenez?
Tout à fait, ça c'est un problème. Alors, il parle de quelqu'un qui se trouve en Europe et qui envoie son frère lui trouver un terrain. Et son frère achète un terrain. Bon, il est allé voir les services de l'État et après, il a les documents. Et quand son frère vient au pays pour aller voir les terrains en question, il n'apprécie pas. Hein, il n'apprécie pas l'environnement, il n'apprécie pas le terrain. À ce moment-là, il dit qui va subir la faute.
Non, moi je pense que c'est la faute à celui qui a envoyé l'argent. Il a fait confiance. Il a envoyé l'argent et les autres se sont exécutés. Qui veut acheter ce terrain? C'est celui qui est en Europe. S'il m'envoie de l'argent, moi je vais acheter le terrain selon mes désirs, selon mes compétences, selon mon expertise.
Non, mais je crois que
moi,
quand il envoie l'argent, il vous dit, il précise également que je veux un terrain, tel genre de terrain, dans
oui,
tel
mais
environnement.
Ça ne suffit toujours pas.
Telle nature du sol.
Ça ne suffit toujours pas. Il est très important. Par exemple, il a envoyé l'argent. Et je peux même aller plus loin pour dire que celui qui a envoyé l'argent et celui qui a représenté l'État dans cette opération-là, pour moi, ce sont peut-être les deux qui sont fautifs. Oui. Parce que moi, j'ai l'argent que j'ai reçu de chez quelqu'un pour acheter un lopin de terre. Je vais trouver l'État. Et l'État m'indique, me guide et me dit, voilà, c'est ici où tu peux acheter ce terrain. Voilà le terrain qu'il faut acheter. Donc, j'ai toutes les informations. Et sous le plan administratif, l'État va me fournir la documentation nécessaire. Mais par après, je me rends compte que non. Malgré que je me suis référé à l'État, je suis toujours dans les pétrins. Donc là, c'est l'État qui doit expliquer.
Hein. D'ailleurs, généralement, les gens ne se réfèrent pas à l'État, monsieur Michel. Il faut pas se voiler la face. Les gens aussi vont voir directement les chefs coutumiers pour avoir un terrain, et après, ils vont régulariser plus tard.
C'est pourquoi, en début d'émission, j'ai bien dit, il faut aller trouver... En fait, c'est quoi? Vous trouvez le chef coutumier. Une fois que vous avez trouvé le chef coutumier, écoutez, il faut aller voir le ministère de tutelle. Les chefs coutumiers, ils se réveillent un matin, ils commencent à pointer du doigt, vous dire oui, c'est là, à partir de là jusqu'ici. Et puis les gens viennent. Le premier qui vient, il achète. Le deuxième qui vient, il achète. Et finalement,
ils vendent les terrains à plusieurs personnes.
Oui, et le gouvernement a eu vent de ce qui se passe sur le terrain. Et ils interviennent maintenant pour lotir. Ouais. Et quand même le gouvernement lotit, l'État lotit un terrain, ceux qui viennent pour acheter, ceux qui viennent au fait pour acheter ces terrains, ils respectent pas. Tantôt c'est l'autre qui prend un mètre de plus, tantôt c'est l'autre qui recule. Donc il y a toujours, donc oui, il faut vraiment que cela soit suivi de près.
D'accord, on va terminer avec la question de Madame Charlotte, bien que sa question ne cadre pas avec le sujet du jour, parce qu'aujourd'hui on parle des précautions avant d'acheter, mais elle a déjà acheté depuis 2011 un terrain et son voisin n'a aucun document et le voisin s'est permis d'empiéter, donc de prendre 5,60 mètres de son terrain.
Pour répondre à cette question-là, je dirais à Madame Charlotte que oui. Elle a donné une indication très importante. Elle a dit qu'elle a trouvé son voisin. C'est-à-dire, elle a trouvé son voisin qui était déjà dans les... Bon, en fait, c'est par après qu'elle s'est rendue compte que le voisin n'avait rien comme document. Mmh. Mais n'empêche qu'elle a trouvé le voisin. Avant d'acheter son le pain de terre à elle, elle a trouvé le terrain du voisin était déjà là. La parcelle du voisin était déjà là. Et elle a acheté. C'est des mois après qu'elle s'est rendue compte que non, elle a acheté un terrain et que son voisin avait 5 ou quelque chose de mètres, autant de mètres chez elle. Oui, c'est déjà un problème. Moi, dans une situation comme celle-ci, je me dis, écoute, je pense que les personnes qui ont guidé cette dame à acheter ce terrain, les services qui l'ont encadré pour l'achat de ce terrain sont fautifs quelque part.
Mais là, qu'est-ce qu'elle doit faire, devant une telle situation?
Non, écoutez, normalement, c'est l'État qui est censé trancher ce genre de problème.
Mais elle dit qu'elle s'est référée au service de l'État, mais il n'y a aucune suite favorable. Elle a même parlé des zigzags.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Elle a même trouvé que ce terrain-là avait déjà été borné. Le terrain de son voisin. Elle a vu. Elle a acheté quelque chose qu'elle a vu.
Le voisin n'a aucun document. Alors, oui, ça prouve qu'il est dans l'illégalité.
On s'en tient. Ce voisin n'a aucun document. Cela ne veut pas dire que ce terrain-là n'appartient pas à quelqu'un. Quelqu'un s'est déjà présenté, sauf qu'avec l'administration, il n'est pas à jour. Mais maintenant, elle est venue, elle a acheté un terrain. Elle a vu quelque chose, on lui a présenté. Il y a eu des mesures. Elle a vu quelque chose. Et elle a acheté cela. Et quelques mois plus tard, on lui dira, non, ce qu'on t'a vendu va jusque chez le voisin. C'est le voisin qui a empiété sur ton territoire. Mais écoutez... Il y a ambiguïté quand même, c'est pas assez clair.
Mais cela veut dire qu'elle a été roulée par certains agents véreux.
Là, c'est avec mon jugement, je peux dire que c'est les services de l'État qui l'ont amené à se retrouver.
Mais qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant?
Elle doit toujours aller voir, peut-être insister auprès de voir un peu les services. Toujours essayer de voir avec l'État comment est-ce qu'elle peut entrer. Il se peut peut-être que ce soit un agent de l'État qui a livré des faux documents.
Bien, merci à Michel Tiwala. Nous rappelons, aujourd'hui on a parlé des précautions à prendre avant d'acheter un lopin des terres. Vous avez dit, la chose la plus importante, il faut aller voir les services de l'État, des affaires foncières, pour s'assurer que c'est un terrain qui est loti. Et puis, aller visiter plusieurs fois les terrains, matin, le soir, pendant la saison sèche, la saison des pluies.
Et les visites, ce ne sont pas, il ne faut pas visiter ton terrain, il faut visiter le quartier.
Le quartier.
C'est très important. Il faut même commencer 100 mètres, ou même 200 mètres plus haut.
D'accord.
Voilà, et aller dans tous les sens, visiter, pour voir. Qui sait, peut-être qu'il y a une tête d'érosion qui vient de quelque part, qui a déjà commencé quelque part.
Il ne faut pas aller seul, il faut se faire accompagner.
Oui, il faut, si vous avez un projet, il faut déjà y aller avec votre architecte, pourquoi pas.
D'accord. Merci Michel Tuana, architecte, et bonne journée.
Merci à vous.